Bien. Donc, vous habitez à la chapelle Saint-Mémas.
Oui.
On peut considérer que ça fait partie de l'agglomération orléanaise.
Oui. Ben oui.
Alors, vous y êtes depuis quand?
À la chapelle.
Alors, depuis, notre fils avait 2 ans, il en a 58, ça fait donc 50, plus de 55 ans. Quoi.
D'accord.
C'est fou, hein,
voilà. Ouais, ça nous renvoie à quelle année, ça, 55 ans.
Alors, notre fils est né en 51, donc envers 53.
D'accord. 53, oui.
D'accord. Et avant d'être à la chapelle, vous étiez où, alors?
Ben, moi, je suis institutrice, donc on a occupé les logements de fonction. Et quand on s'est marié, j'étais en poste à Marcilly en Villette.
En Sologne.
Voilà.
À 20 km au sud d'Orléans.
Bernard travaillait au nord d'Orléans.
Et moi, je travaillais dans la métallurgie, quoi, dans le centre d'Orléans, quoi, à l'époque.
Ah oui, dans le centre d'Orléans, il y avait...
Oui, 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 il y avait des usines où on était 25, quoi, où c'était... dans la partie est d'Orléans. Oui, la partie est d'Orléans, quoi. J'irais du côté du Faubourg Bourgogne, par ce fond-là, dans Saint-Marc.
Ah, oui, d'accord.
La région de Saint-Marc.
Une zone,
C'était une petite usine qui faisait de la mécanique de la sous-traitance. Hein.
D'accord.
Et bon, qui après s'est développé dans la zone industrielle au nord d'Orléans, à la limite de Fleury et d'Orléans. Quoi.
Il y avait quelques-unes des usines ou c'était...
C'était les petites usines, c'était les... dans Orléans même, il y avait quand même... Orléans même, on ne peut pas dire qu'il y a l'agglomération d'Orléans, il y avait la grosse usine, il y avait à l'est... d'Orléans, c'était Saint-Jean-de-Bresse, c'était les ateliers d'Orléans, ce qu'on appelle les usines d'Ambert, rue d'Ambert, dans ces coins-là, qui actuellement, c'est une grosse boîte encore, quoi, qui fabrique des moteurs électriques et ce système-là. Dans le centre d'Orléans, dans l'ouest d'Orléans, on peut dire qu'il y avait Rivière et Casalis, une boîte qui faisait de la machine agricole. Il n'existe plus, quoi, hélas. Et il y avait Thermor. Thermor, qui était l'électroménager, quoi, les fers à repasser, quoi, la machine à laver. Maintenant, qui était dans le centre d'Orléans, Faubourg Madeleine, Faubourg Saint-Jean. Quoi.
Il y avait Panhard aussi.
Il y avait Panhard, les automobiles Panhard qui étaient... Faubourg Madeleine, au milieu du Faubourg Madeleine, qui n'existe plus, c'est des immeubles à la place, quoi. C'était qui, à l'origine, faisait de la carrosserie. Faisait pas les moteurs, c'était de la carrosserie pour chez Panhard, quand Panhard existait. Et c'est resté faire de la soute, travailler pour l'automobile jusque dans ces années-là, quoi. Après, il y a Renault qui est venu sur Orléans, plutôt sur Saint-Jean-de-la-Ruelle que sur Orléans, quoi. Sinon, l'industrie d'Orléans, en classique, c'était le vinaigre des seaux, quoi,
ouais,
et c'était ces choses-là, quoi. Mais en point de vue industrie, il y en avait quand même, quoi. Il y avait des petites boîtes qui faisaient de la mécanique, par exemple, une boîte qui faisait où j'ai travaillé, puisque j'ai travaillé dans une dizaine d'usines dans Orléans, hein, d'entreprises de mécanique, donc plus ou moins grosses, de 20 à 30 personnes, quoi.
Je savais pas du tout, je connaissais pas du tout cet aspect usine. Ouais. C'était exceptionnel.
Alors, non.
Les industries à l'époque étaient un petit peu.
Oui. Il y avait quand même Orléans. Une grosse activité, c'était Mingour, les conserveries qui étaient sur les quais actuellement, quoi, vous voyez, où habite Mohamed, un petit peu dans ces coins-là, c'était une zone d'activité où il y avait les abattoirs et Mingour.
D'accord.
Maintenant, c'est les zones résidentielles.
Et toutes ces activités-là ont disparu petit à petit ou...
Les abattoirs ont été transférés, quoi. Ça disparaît pas. Maingour, maintenant, est sur la chapelle, est venu dans la périphérie d'Orléans. Et puis, bon, à cette époque-là, Orléans n'avait pas toute la région de la Source. La Source a été achetée par la ville d'Orléans à Olivet et les communes qui étaient là-bas. Orléans s'arrêtait du côté de Saint-Marceau, quoi. Elle arrivait jusqu'à Olivet, mais la Source, c'était la plaine, hein, c'était là-bas, là. Et c'était acheté pour faire Orléans, quoi, qui s'est développé au point de vue activité dans cette zone-là, avec le CNRS, le centre, les chèques postaux, quoi. Voilà.
D'accord. Donc on revient donc sur la première question. Donc madame était institutrice.
Oui.
Maximon Villet.
Oui. Et en fait, après, j'ai donc cherché à me rapprocher d'Orléans, mais pendant 2 ans, l'école était en construction, donc j'espérais avoir un logement. Ça a quand même demandé 2 ans, pendant lesquels on a été obligé d'habiter assez loin. Oui. Moi, je suis originaire de Bôle, et mes parents avaient une
Bôle,
petite maison.
Bôle, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres.
Notre fils était bébé, on a habité Bôle pendant 2 ans, je travaillais à la chapelle. Et Bernard travaillait où à ce moment-là?
De Marcy en Villette, d'abord j'ai... il y a une coupure professionnelle avec le service militaire, et puis en revenant du service militaire, ma boîte avait fermé, quoi, où je travaillais, quoi. Alors j'ai été travailler à Chevilly, ça faisait 35 km de Marcy en Villette, en vélo, quoi, évidemment, il n'y avait pas de...
On
faisait pas le vélo le dimanche, hein, on le faisait assez dans la semaine. Notre gros problème, ça a été les problèmes de logement. Orléans ayant été pas mal sinistré en 1940, et puis après pendant la guerre, et puis après il y a eu l'arrivée des Américains sur Orléans, sur tout ça, qui ont fait une grosse base à Orléans, et qui ont donné une surenchère sur le prix du logement, ce qui fait que hein, la petite Espère et la région de Saint-Jean-de-l'Arvel, tout ça, ça a été fait pour eux, quoi, jusqu'au moment où ils déménagent, ils s'en aillent, quoi. Mais il y a eu une période très dure au point de vue logement là, pour les Orléanais.
Quoi. Juste après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, entre la Seconde Guerre mondiale et...
Presque jusque dans les années 60, en fait.
Jusque dans les années 60.
À quelle année ils ont quitté la France, les Américains?
Les Américains, leur base est Orléans, Châtellerault...
Peut-être bien 60.
Et donc c'était une base de trafic entre l'Allemagne et la Palisse, La Rochelle, où ils avaient une base de... Ils faisaient beaucoup de
transferts. Il y avait beaucoup d'Américains à l'époque.
Ah oui, qui habitaient, quoi. Qui habitaient sur Orléans, qui était basé, quoi. Avec... Alors ça fait une activité, parce que ça a donné une activité aussi aux Français, quoi. Ils travaillaient pour eux.
Il y avait... Ils étaient acceptés, enfin,
On a vu beaucoup d'US Go Home marqué en ville à Orléans, quoi. Les Américains, ça a été une catastrophe pour les Orléanais, certains Orléanais, pour ceux qui cherchaient des logements.
Surtout pour le problème du logement.
Ah oui.
Autrement, c'est vrai qu'il y avait quelques emplois, quoi.
Ils avaient leur PX, qui était leur Auchan à l'origine. Ils consommaient vraiment très peu chez les Français, quoi. Ils avaient leur approvisionnement qui venait, quoi. Donc, c'était une concurrence qui n'était pas toujours bien vue. Hein.
Mais en même temps, il n'y avait pas l'aspect reconnaissance de leur rôle dans la Seconde Guerre
Sans doute que si. Pour moi,
il y a eu une occupation américaine.
Ah, oui, d'accord.
Voilà.
Enfin, nous, on l'a vécu comme ça. Mais
on l'a vécu comme ça. Évidemment, les propriétaires qui avaient quelques logements alloués chers, là, eux, ils n'ont pas le même point de vue, quoi. Mmh. Mais enfin...
Et les gens, enfin, la plupart des gens, enfin, l'opinion publique, entre guillemets.
Il n'y avait pas. C'était quand même une concurrence économique pour nous, quoi. Il n'y avait pas, disons, un ressentiment tellement anti-américain, mais enfin. Ils se mélangeaient pas tellement. Ils venaient avec leur famille, c'était quand même des.
Ils vivaient en milieu ferme, mais oui, ça c'est sûr.
Tout de suite, il y a eu les moyens de faire des ensembles pour les loger quand il n'y en avait pas pour les logements. Orléans, le centre d'Orléans, a été en ruine pendant une vingtaine d'années quand même. Hein.
Ah oui, tous les immeubles que l'on voit là, qui sont un petit peu...
Où il y a la sécurité sociale, quoi. Il y a eu le quart de la ville à peu près qui a brûlé ou qui a été bombardé en 1940. Hein. Mm-hmm. Et il y a eu le feu dans Orléans, tout ça. Jusqu'en... les années 55-60, c'était resté en l'état. Et il y avait des baraquements pour les sinistrés qui étaient dans des zones comme les Grous ou sur les Mailles, où il y a les parkings actuellement devant le cinéma, où il y avait l'artistique, tout ça, tout c'est de la place d'Arc à Sainte-Verte, c'était des baraquements pour les commerces sinistrés du centre-ville. Et ça a persisté longtemps, quoi.
Jusqu'en quelle année, oui, quand j'ai...
Je sais pas, quoi.
La promo 42-46, donc à cette époque, l'assesseur, c'était les bidules.
Les bidules, oui, on appelait ça les bidules. On va faire un tour, les bidules. C'était le centre actif d'Orléans. Le restant, c'était les ruines. C'était où on faisait... Le centre d'Orléans, c'était la REP. On faisait la REP, la rue Chic. C'était la rue de la République, parce que la rue Jeanne d'Arc était encore en ruine, hein. De la place du Martroi jusqu'à la Loire, c'était des ruines, tout ça. Hein. Et ça a été longtemps comme ça.
Hein. Et donc le centre, c'est plutôt rue de la REP et...
Le centre, ça tourne maintenant. Autour de la place du Martroi, hein, qui est un peu le centre historique d'Orléans et qui le reste.
Que maintenant, ça s'est un peu déplacé. Quoi.
Ça se déplace sans cesse, d'ailleurs. Quand on regarde dans l'histoire, on remarque que... L'arrivée
maintenant, il y a presque deux centres à Orléans, où il y a le sud, où il y a la place d'Arc, quoi, qui est ce nouveau centre.
C'est-à-dire que Orléans, quoi, moi j'étais à l'école, mes parents habitaient Fleury-les-Aubrais, quoi. C'était pendant la guerre, hein, c'était pas de transport public parce que. Il y avait ce que l'on fait actuellement, on fait les tramways, hein, et il y avait des lignes de tramway dans toute Orléans avant la guerre.
Ah oui?
Ça a été bombardé, on a supprimé le dépôt des tramways, il y a eu des pavés et des rails de tramway jusque dans les années 60 d'Orléans, hein, et puis maintenant on refait des tramways, comme si on inventait quelque chose de nouveau, quoi. On y revient, et ça existait, quoi, avant la guerre, ça. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas les transports automobiles, était rare.
Il y avait quoi comme ligne alors de tramway?
Ça allait du nord d'Orléans, des Z, hein, vous voyez,
ou
Fleury, jusqu'à Olivet, l'avenue Dauphine, tout ça, c'était... Où il y a le tramway actuellement, il y avait le tramway ancien.
Et il y avait une ligne au Jeanne d'Arc aussi, il y avait des rails au Jeanne d'Arc.
Oui, oui, oui.
Il y avait les deux lignes.
Alors, il y avait la place... place d'Arc, la place d'Arc n'existait... C'était la gare d'Orléans, dans un... ancien style, genre un peu baltard, hein, avec une très grande place où il y avait les tramways qui passaient ça. C'était des pavés en bois qui étaient glissants, alors quand il pleuvait un petit peu en vélo, hein, c'était bon. Hein. Enfin, bon, c'était toute une période, mais Orléans ressemble plus à ce que c'était à cette époque-là, quoi, évidemment, toutes les villes. Et puis Orléans est coincé aussi par les communes environnantes qui ont grossi, quoi. Ici, on est une commune de 2000 habitants. Quand on est arrivé, il y en avait 1300 ou 1400, quoi.
Bon, c'est peu, c'est pas.
Oui. C'est bien. Oui, oui. Et on est venu à la chapelle pour un problème de logement. C'est parce que Pierrette avait demandé un poste à la chapelle parce qu'il y avait des écoles qui se construisaient et des logements de fonction. en parallèle, quoi. Alors, donc,
effectivement, on a eu un logement quand l'école, quand ça a été fini, quoi.
On a eu un logement potable quand l'école a été finie.
Qu'on a occupé quand même un certain temps.
Un certain temps, plus d'une... ben, ça fait 30... Alors, ça fait 20...
Mettons 55 ans, à 80... 55 à 80, ça fait...
Oui, oui, 25 ans.
Et quand cette école a été construite, vous étiez la seule institutrice?
Ah non, pas du tout.
C'était un groupe scolaire déjà assez important. Quoi. Maintenant, il y en a trois des groupes scolaires, quoi, et qui ont grossi.
Alors là, c'était...
Groupe scolaire primaire, quoi.
À l'époque, c'était quand même l'unique groupe de la chapelle.
Oui.
Et alors, ça comprenait...
Il y avait une école, les anciennes écoles qui étaient dans...
Et école maternelle,
qui sont occupées actuellement par des...
Et il y avait des logements pour les trois groupes.
À l'époque, il y avait les directeurs qui étaient logés à peu près, quoi, dans les vieux logements, quoi, avant qu'ils construisent ce groupe-là, quoi.
Ah bah oui,
c'est... Et une douzaine de logements de fonction qui ont été construits en même temps que l'école, ou à peu près.
C'était une époque où les enseignants appréciaient les logements de fonction.
Ah bah c'est...
Tandis qu'après, ça cessait d'avoir la cote, mon enfant.
On demandait beaucoup, là, parce que les problèmes de déplacement étaient différents, c'est qu'on n'avait pas de voiture, hein. Ouais. C'était pas l'époque de l'automobile, hein. Alors tout ça, donc, être logé sur son lieu de travail, c'était quand même très important, quoi.
Ah oui. Donc là, l'histoire commence un peu, donc, on va dire, au début des années 50. Et alors, si on remonte encore un tout petit peu plus loin, vous êtes tous les deux nés dans la région?
Moi, je suis né à Orléans.
À Orléans même.
Orléans.
Et moi, à Boulle.
À Boulle, à 20 km, 18 km d'Orléans. Quoi.
Et vous vous êtes rencontrés comment, alors?
On s'est rencontrés... par l'intermédiaire des auberges de jeunesse.
Donc, on fait partie d'un mouvement jeunesse qui a beaucoup marqué notre époque, c'est les auberges de jeunesse.
Qui était... Actuellement, il y a toujours des auberges de jeunesse, mais c'est plus ça, quoi. C'était un mouvement autogéré...
C'était un mouvement jeunesse, vraiment.
...de jeunesse, qui était... Je veux pas dire... Il y avait les scouts, d'un côté, hein, et puis il y avait les...
Les
auberges de jeunesse, qui étaient un mouvement plus libéral dans un sens, qui n'avait pas le sens militaire que peut avoir le scoutisme.
C'était
mixte. Quand on disait des scouts, on disait scopoli, hein. C'était presque une injure pour nous. Bon, donc basé sur la laïcité, les mouvements de jeunesse basés sur la laïcité.
C'était mixte, ce qui était mixte, des scouts aussi.
Mixte, les scouts, c'est, hein, il y a les éclaireurs, les éclaireuses ou les cathos.
Les cathos, les protestants.
Les protestants, ils sont compartimentés, tandis que nous, c'était laïque et, je dirais anticlérical, quoi. D'accord. Anticlérical. Bon, et on s'est connus, on sortait dans les auberges jeunesse et on campait beaucoup.
D'accord.
Hein, en camping, quoi. C'était le plein air,
Oui, c'est comme
voilà.
Ça. C'est un mouvement qui a beaucoup marqué notre jeunesse, ça. C'est...
Voilà.
D'accord. Ouais. D'accord. Donc, en fait, c'était du camping, un peu dans la nature,
oui,
etc.
Oui, nature, et puis il y avait les auberges jeunesse, où par exemple, moi j'ai été pour la première fois en auberge jeunesse en 1946, qui à l'époque avait une fonction sociale. Les auberges jeunesse organisaient des...
Des caravanes ouvrières.
Des caravanes ouvrières, c'est-à-dire des gens... des militants des auberges organisaient des vacances pour des gens de centres d'apprentissage, des trucs comme ça. Et j'étais en centre d'apprentissage actuellement à l'usine d'Ambert, quoi, Orléans, et ils nous avaient proposé au personnel de nous emmener deux semaines dans les Alpes à Orcières, et puis il y a eu chaque groupe local organisait les sorties comme ça.
Et puis aussi, on avait comme but de créer les auberges jeunesse, par exemple à Orléans, on avait vraiment créé une auberge. C'est-à-dire qu'on avait
loué un local,
qu'on avait aménagé, et on se
rencontrait. À privé, quand même. Mais, bon, et puis, bon, moi, ça périclitait, quoi, parce que l'État, travaillait aussi sur des subventions, quoi. Bon, il y a eu des périodes, par exemple, noires, comme jusqu'en 1949, il y a eu des tickets d'alimentation, quoi, on trouvait. Donc, quand on faisait les sorties en camping, 10 ou 20, on avait droit à des bons de déblocage pour 2 kilos de viande, 1 kilo de confiture, des trucs comme ça, donnés par la préfecture. Voilà, on allait quémander, quoi, des trucs comme ça. C'était des périodes qui n'étaient pas drôles. L'essence était... on ne pouvait pas se déplacer parce que c'était limité, quoi. Donc, après, il y avait ceux qui en voulaient, quoi. Ben, il y avait le marché noir, hein. Bon, marché noir, c'est-à-dire que quand il y a une limitation, il y a un marché parallèle, quoi. Ben, je sais pas d'où elle venait, mais enfin, il y en avait quand même de l'essence, puisqu'on en trouve au marché noir.
D'accord.
C'était...
Et donc, c'était lors d'une sortie particulière?
Oh, ben, c'était bien.
On s'est fréquenté, non? Enfin,
on se rend.
Vous êtes fréquenté.
Enfin, fréquenté, mais fréquenté en ce sens d'amitié.
On s'est connu quand même pendant.
Dans ces auberges, on se rencontrait, on avait des réunions fréquentes, on sortait.
Depuis 46, soit un peu plus tôt. Et puis, toutes les semaines, on avait une réunion. Une réunion de groupe d'Orléans qui était dans l'auberge jeunesse Faubourg Madeleine à ce moment-là, quoi. C'était une auberge jeunesse municipale gérée par la municipalité, mais qui nous permettait d'avoir une salle une ou deux fois par semaine pour nos activités, où on organisait, on se réunissait par exemple dans la semaine pour organiser nos sorties du week-end. Bon, on allait camper à tel endroit, on y allait en vélo, on y allait à pied, on partait. Bon, voilà, c'était comme ça. On s'est connus comme ça, mais en 46, hein.
Oui.
Et puis après.
Et on ne s'est marié, enfin, on a vraiment envisagé de vivre ensemble que. Alors, de l'année en 50, en 50. Ah non, avant que tu partes au service militaire, c'est un.
Oui, non, mais c'est après le service militaire qu'on a décidé.
On est sorti ensemble. Mais avant ton service militaire, on avait fait cette grande balade.
Oui. À pied, quoi. On pratiquait beaucoup l'autostop à cette époque-là. Hein.
Ah oui, on s'est.
On partait un week-end, on allait à Bordeaux et on revenait pour être le lundi matin au boulot, quoi. D'accord. C'était pas toujours facile, mais c'était une époque où on faisait de l'autostop les trois quarts du temps sur des camions, hein, parce que les camions, tout le monde s'arrêtait quand il y a quelqu'un. C'était une époque où c'était que des privilégiés qui avaient des voitures, quand on faisait de l'autostop, les gens s'arrêtaient beaucoup plus facilement qu'actuellement, quoi. Et nous, ben...
En fait, on s'est bien amusé pendant cette époque-là. Ouais, ça, on a une jeunesse très marquée par ça. Et ça...
Bon, alors, il y avait un problème familial. Mes parents, j'étais libre à partir de... je partais, il y a des années où je suis resté dans la famille que, je me rappelle, deux week-ends sur l'année, quoi. Tous les restants sortis en camping, c'était vraiment des périodes assez...
Vous étiez majeur, enfin vous aviez...
J'avais 16 ans, 17 ans, à partir de 16 ans, mon père me laissait libre, je rentrais le soir, je partais avec mon sac à dos, quoi, ou le vélo, quoi.
C'était aussi le cas pour les filles
Mes parents étaient paysans, mais très ouverts. D'accord. Et jamais j'ai eu de contraintes non plus. Ouais. Alors j'étais normalienne de 42 à 46, c'est-à-dire que j'habitais à Orléans dans ces périodes-là. Et puis après, ben, quand j'ai commencé à travailler, alors les limites du département, je me les suis offertes. Ça,
oui, les premiers postes, c'était dans...
Au loin. Et c'était grand, le département, quand on n'avait pas de voiture. Hein,
c'est... on se déplaçait comment,
transport public.
Oui, mon premier
le
poste.
Vélo.
Alors j'étais à Sermes-de-Loiret, après j'étais à Arvaux-Belsauve. Alors ça c'est un superbe port de mer du côté de Malesherbes. Alors, j'ai pris le train, j'ai fait du stop. J'ai eu une moto qui marchait pas souvent.
Oui, une petite moto.
Enfin, voilà, c'était l'aventure.
Enfin. Et donc, vous êtes dans cette maison à la chapelle depuis...
Depuis que je suis en retraite, puisqu'on a occupé
depuis,
le logement.
Bah oui.
Tant que j'ai enseigné, on a occupé le logement de fonction.
D'accord. Oui. Ça bah, fait à un partir petit peu... du départ en retraite, il fallait dégager les lieux, quoi.
Tant que j'étais institutrice primaire, c'était, ça faisait partie de mon statut. Mm-hmm. Après, j'ai été, ça s'appelait à l'époque, professeur des collèges, PEGC. Mm-hmm. Alors là, je n'étais plus logé. Mais la commune me logeait pour une somme très modique. Voilà. Moi, je trouvais que c'était très avantageux de rester là. Mm-hmm. On n'a pas envisagé de faire construire.
Oh, et puis on était dans un logement. C'est des pavillons de 4 logements. C'était oui. des collègues avec qui on avait des bons rapports, tout ça. Mm-hmm. Bon, c'est sûr que... Il fallait descendre au sous-sol, aller chercher du charbon
oui.
pour se chauffer. Quoi. C'était, mm-hmm. ça, c'était pas vieux, mais ça n'avait pas été bien, très bien conçu quoi, à l'époque. Mm-hmm.
D'accord.
Ce qui fait que quand on a quitté ces logements, quoi, les anciens n'ont plus voulu aller dedans. Quoi, ils étaient, alors, c'est actuellement, ils ont dû refaire les systèmes de chauffage au gaz, parce que c'était le chauffage central. Ils posent ça tous les matins, la chaudière dans la cuisine.
Je ne sais pas si c'est occupé par des enseignants actuellement.
C'est les trois quarts par du personnel municipal.
Oui, et des enseignants après, oh là là, tu es encore là-dedans, comment tu fais ?
Oui,
Et donc vous avez acheté ici ou enfin vous avez
oui, on a acheté ici.
On a acheté.
En fait, on a acheté un peu par surprise parce que on a une petite maison à Beaule, là où je suis originaire. On l'a acheté en 68. Et on pensait qu'on améliorerait cette petite maison et puis qu'on prendrait un logement en ville, enfin bref. Et puis Bernard s'est présenté aux élections municipales. Et puis il a été élu, chose parce qu'on se présentait souvent, mais être élu c'était nouveau ça. Alors après, ben, il fallait mieux habiter la commune, alors tant qu'habiter la commune, autant avoir une maison.
Si on veut s'occuper de son truc et puis qu'on fout le camp ailleurs, quoi, c'est, en général, c'est pas.
T'as été élu en quelle année, toi, alors ?
Hein ?
En quelle année tu as été élu ? Quelques années avant ma retraite, quoi. Donc ma retraite, c'était en 81, tu as peut-être été élu en 79,
quelque chose. Oui, dans les années, quoi. Dans les années 75 à 80.
Donc là, on s'est mis
quoi.
À chercher une maison, puis on a trouvé celle-là, puis parfois.
J'ai fait quoi de mandat, quoi. Ah, j'ai été élu sur une liste, mais minoritaire, quoi, en opposition.
Fois, oui.
Puis après, j'étais sur une liste où on était. Majoritaire. J'étais adjoint du maire, un des adjoints, quoi, puisque comme ça, donc ça m'a occupé quand même pas mal. Et puis ça nous a tenu quand même un peu sur la chapelle, sinon on avait envisagé un moment de chercher un logement après Orléans ou ailleurs. Hein.
Oui, bon, on a failli en acheter un logement quelques années avant Marseille.
Et puis on a trouvé ce terrain où, qui est quand même assez grand puisque ça va derrière, tiens, il y a une photo là-haut, aérienne, où on voit une grande partie du terrain. Et donc, sur cette photo, on habite la partie à gauche, hein, avec... on a refait un garage dans le fond pour une caravane. Donc, c'était dans un état lamentable au point de vue logement. Par exemple, ici, il y avait pas de porte, c'était une petite fenêtre. Hein. Il y avait une cloison ici, il y avait deux petites chambres.
Enfin, ça tenait debout.
Ça tenait debout. Il fallait refaire la toiture, les chambres. Au grenier, c'était des greniers qui n'avaient jamais été aménagés, ni plancher, ni rien. Donc, il y a eu beaucoup de travaux à faire sur la maison. Bon, ce qui fait que pendant un bout de temps, le soir après le boulot, j'avais de quoi bricoler, quoi. Avant qu'on rentre dedans, on a mis 2 ans avant de rentrer dedans, quoi, à peu près, quoi.
Puis on est rentré.
Des gros travaux de maçon, puis j'en ai fait beaucoup aussi. Et puis après, ben, on est rentré là, quoi. Oui.
On a dû rentrer, justement, en janvier 81. Et je prenais ma retraite en septembre.
Oui, oui.
Je me permets d'intervenir quand même. Pour la période où vous étiez donc dans ce logement de fonction,
oui,
durant toute cette période-là, on peut imaginer que vous auriez fait des économies. Et maintenant, vous avez voyagé surtout.
Oui, ben, c'était des voyages en auberge de jeunesse qui ne coûtaient pas plus cher que le restaurant.
Ah, oui. Non, mais les voyages, après, les grands voyages.
Les grands voyages, c'était surtout en camping. Bernard travaillait encore, donc on partait.
Oui, on partait. En fait,
on allait loin, si on veut.
La boîte fermait. C'était une usine où on était 25, on était arrivé à 600, quoi. C'est-à-dire, c'était assez gros, quoi. Donc, il n'y avait pas de roulement, quoi. La boîte, paf, elle fermait. Et donc, les périodes de vacances, c'était en général, c'était le mois d'août.
Et toutes ces périodes-là, on est parti en camping. Vous,
on est parti en camping, avec la tente. Hein, on campait pas, on n'avait pas la caravane et on est parti avec des amis. On partait à deux ménages en général.
On est parti pendant très longtemps avec des copains.
Par exemple, il y a un exemple en 69, on a été en Turquie. Hein, en Turquie, en 4 semaines, par la route, on traversait la Yougoslavie, on était plusieurs fois en Grèce, en Crète et tous ces trucs-là, on le faisait en 4 semaines, ou le Maroc, ou...
La Corse, vous l'avez fait très tôt.
Très tôt, on l'a fait, avant d'avoir ces logements-là, on prenait le train... Et on embarquait et on le faisait avec le sac à dos, la Corse. On l'avait fait très tôt.
La première voiture, c'était quand pour partir en vacances ?
En 56.
Ah oui, d'accord, c'est quand même assez tôt, la voiture.
C'était pas une voiture pour aller à l'étranger. C'était une 202 de 1938, modèle 38. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait des balades en France.
Il valait mieux pas aller trop loin, quand même.
Et puis après, on a commencé à avoir des voitures...
Des 202.
Des 203.
Ah oui, la première, c'est une 202.
Et puis après, on a eu les 203 qui étaient 20 ans de moins, quoi.
C'était des vraies
voitures. Mais c'était des voitures de case qui avaient déjà...
On a toujours roulé en voiture d'occasion.
Oui, on n'a jamais eu de voiture neuve.
Mais quand même, elles sont de plus en plus récentes, il faut bien reconnaître. Ouais,
celle-là, elle était récente, mais elle avait un an, un peu plus d'un an, mais elle avait 70 km, quoi. Alors, non, mais c'est sûr que on partait à deux et c'était des époques où quand on allait en Turquie, il fallait partir avec ses deux roues de secours, son paquet de chambre à air, sa courroie de ventilo et ses pièces de rechange, hein, c'était sûr. Et puis une caisse à outils, un marteau, hein, du fil de fer. Ça faisait partie, sinon on n'allait pas au bout, quoi.
J'en reviens à l'âge de nos voitures. C'est vrai que notre niveau de vie s'est pas beaucoup augmenté quand même. Dans les années 50, on était très très pauvres. Hein. Moi, j'ai fait toute ma grossesse avec le par-dessus de mon père, mon père était paysan, oui. Et il n'avait rien d'un gandin. Hein. Et toute ma grossesse, je ne me suis pas acheté de manteau, on était vraiment très pauvres. Mais ça ne nous pesait pas.
Il y avait une société qui évoluait. Il faut dire que...
Le niveau de vie a effectivement beaucoup, beaucoup changé, ça.
Par exemple, toi, les enseignants, il y avait les périodes scolaires, les congés scolaires. Dans l'industrie, on avait deux semaines de vacances. Hein. Sauf, en dessous de 18 ans, on avait 3 semaines. Mais celui qui avait 18 ans, il avait 2 semaines de vacances. On est passé à 3 semaines, on est passé à 4 semaines, on est passé à 5 semaines. Ça a été quand même important. Les conditions de travail étaient tellement différentes, perturbées par les périodes de la guerre, hein, que on était amené à faire des horaires de complètement dingues. Parce qu'il y avait plus de courant pour d'alimenter. On travaillait de minuit à 6h de l'après-midi à 6h du matin, des trucs comme ça. On ferait ça actuellement, on dirait c'est pas vrai, quoi, ça n'existe pas. Mais ça existait, mais on le faisait parce que c'était une période où on sentait qu'il fallait le faire. On était dans un creux de vague au point de vue économique. Et puis on a vu que ça, petit à petit, ça s'est fait, quoi, la période où on disait faut retrousser ses manches, ça a été un mot d'ordre, après la guerre, il fallait retrousser ses manches. C'est vrai qu'on tapait, on faisait des horaires de 50-55 heures. Moi, où je travaillais, où j'ai fait, après, quoi, quand même, 31 ans dans la même boîte, hein, l'horaire, c'était 50 heures par semaine, l'horaire décalé, déclaré en préfecture, c'est-à-dire, faisait 50 heures. Après, j'étais agent de maîtrise. Agent de maîtrise, la maîtrise faisait 10% de plus. On faisait toujours 5 heures de plus que le temps de son équipe. C'était des horaires de 55 heures, quoi. Donc, ben enfin, bon. 50 heures, on faisait 50 heures et avec le copain, on trouvait le temps encore, après le boulot, de se réunir pour discuter des problèmes syndicaux dans la boîte. Hein. Que maintenant, les gens, en faisant 35 heures, ils sautent dans la voiture et puis après, il n'y a plus personne. Ils ne s'en trouvent plus. Hein. Il y a eu un problème de... moi, je trouve qu'il y a de dégradation des contacts à l'intérieur des entreprises et puis transformation des activités en secteur tertiaire, par exemple les entreprises de mécanique, tout ça, Orléans, il y en a très peu, quoi. Les gens sont isolés dans leur coin. Et puis, alors, la télévision, c'était un passage. Alors là, on a vu, les patrons ont bien vu, ont aménagé les horaires de façon que les gens puissent sauter dans leur bagnole et arriver chez eux pour être sur les programmes de télé. Même pour les gars en équipe, on les avait aménagés pour ça. Mais, et comme ça, ils ont pris cette drogue à l'époque. Et puis après, les gars, ben non, parce qu'ils rentraient chez eux, ils rentraient à la télé, ils pouvaient plus discuter. Avant, on avait des contacts dans l'entreprise beaucoup plus riches.
Mais quand même... l'esprit individualiste, c'était partout, parce que dans l'enseignement, on ne peut pas dire que les horaires étaient moins changés. Et le taux de syndicalisation est très très faible maintenant, alors qu'il y a une époque où pratiquement tout le monde était syndiqué. Ça...
Oui.
D'accord. Et juste, je reviens quelques instants sur la télé, ou sur l'arrivée de la télé. Vous situez ça à quelle époque
Je me rappelle quand on était à la chapelle, et avant de voir les télés, on a vu des antennes dans des lotissements. Parce que s'il y en a un qui avait la télé avec une antenne, l'autre il commençait par remplir l'antenne, pour mettre l'antenne, pour faire croire qu'il avait la télé. Quoi. C'était quand même. Bon, ça existait, ça fait rire un petit peu. C'est un peu une boutade, mais enfin.
Nous, dans le groupe scolaire, on a été parmi les derniers, je me rappelle.
Oui.
Denis, il allait voir la télé chez les voisins. Mm. Mais je ne sais pas, peut-être quand Denis avait 10 ans, qu'on a eu la télé, dans les années 60 et quelques, quoi. Mm. 65 peut-être, oui. Oh, oui,
bien. Oui. Il y avait donc une seule chaîne, et c'était quoi les émissions phares
Les émissions phares, c'était envoyés spéciaux, cinq colonnes à la une, des trucs comme ça, quoi. Des grands reportages, quoi, à mon point de vue, quoi.
Il va y avoir une émission de divertissement assez drôle aussi que Denis allait voir chez les voisins.
De télé, par exemple, on en retrouve, on a des cassettes, là, où on enregistrait des trucs comme Palace.
Ah, ça, c'est relativement récent, ça.
Relativement récent, mais quand même.
Ça va qu'une vingtaine d'années, quoi.
Bah oui, ça va quand même une vingtaine d'années, mais on voit plus l'équivalent, quoi, au point de vue qualité, avec des artistes assez. Il y a eu les Shadok ou ces trucs-là.
Oui, même quand il n'y avait que deux chaînes, il y avait une qualité de programme qui était super
bien. Actuellement, on regarde des programmes, on fait la grimace. Alors, évidemment, nous, on n'est pas très fanat du sport compétition comme ça, ce qui fait que, bon, ben... quel que soit le résultat, d'ailleurs, bon, moi, ça... C'est pas ça qui nous... ça nous gêne, parce que ça bouffe beaucoup sur... Il y a un abrutissement des masses, là.
Mais le fait que la France ait perdu, là, au foot, c'est pas plus mal, hein, parce que...
Ça permet de... Effectivement,
oui, oui. De respirer un peu plus. Oui.
Vous avez des enfants?
Un fils.
Non, il habite la région parisienne. Mm-hmm. Il a fait une licence de lettres. Il pensait un petit peu enseigner, mais au fond vaguement. Et puis, il est rentré comme correcteur dans l'impression. Et il est en retraite.
Il est en retraite.
Il a fait sa carrière au Parisien Libéré.
Il a fini comme responsable d'un secteur de correcteur.
Ça lui a plu, quoi.
À la retraite, et retraité toujours dans la région parisienne.
Sa femme est enseignante et elle n'est pas encore en retraite.
Elle aussi, elle se fait des soucis. Hein.
Elle attend les nouvelles applications pour voir à quelle sauce ça va être mangé.
Ça lui fait une année de plus, quoi.
Ah oui. Qui, eux, ont un fils.
Qui habite également Ivry.
Voilà. Qui habite Ivry, qui est marié, et qui ont une petite fille qui a 3 ans, donc on est arrière grand-parents. Voilà. Et on l'a vu jeudi, là, ils sont venus, les grands-parents.
S'occupent beaucoup de.
Ils habitent pas loin l'un de l'autre.
Notre fils est très disponible, donc quand il y a un problème, voilà.
Ils sont venus une journée, passer la journée jeudi, quoi.
Elle a deux familles, là, vraiment. C'est bien, elle profite bien.
Bon, c'est ça. C'est des familles assez courtes, quoi.
Oui.
Bon, sinon, quoi, nous, on est d'origine une famille.
Quatre enfants. Oui.
Quatre enfants. Chez nous, on était 3.
C'est un peu spécial. Oui.
Et d'un premier mariage, mon père a divorcé de ma mère, quoi, dans les années 40 et quelques. Et il était remarié, il a eu 3 filles aussi avec sa
deuxième femme.
La belle-mère, si on peut dire.
Ça fait quand même des familles, effectivement, assez...
Bah oui, sauf. Oh. Mais enfin, on se fréquente avec ma famille quand même pas beaucoup, avec ma sœur. Une sœur qui est américaine, qui est mariée avec un Américain qui était venu en occupation.
Entre parenthèses. Il y a plein qui racontent effectivement.
Voilà. Oui. Il y a eu le mirage de l'ingénieur américain, qui travaillait dans une boîte comme soudeur, quoi. Mais ça c'était très américain, quoi. Ils étaient tous ingénieurs là-bas, les Troufions, qui étaient là. Alors c'est.
Il y a plein de jeunes filles.
Il y en a pas mal. Il y a une période, moi, de copains, tout ça, qui sont partis aux États-Unis. C'était pas la période hippie encore, mais c'était même avant, quoi.
Oui, puis il y avait comme aussi un certain mirage.
Un mirage des États-Unis. C'était difficile d'y arriver, alors ils faisaient des. Commençait par partir
au Canada
parce que c'était plus facile, et du Canada après on pouvait rentrer plus facilement. Puis qu'ils sont venus en retrait, ils sont revenus en France,
pour toucher la sécurité sociale,
La couverture sociale. Le peu qu'ils avaient travaillé en France avant leur a beaucoup servi aussi pour leur vieillesse en France,
Et à l'époque, ça faisait rêver un peu les jeunes filles, un beau américain, ingénieur.
Moi, pas du tout.
Pas tellement, non.
Le fait que les parents soient divorcés.
Voilà,
aussi,
bon. Ma sœur j'étais l'aînée. Elle avait 3 ans de moins que moi, ma sœur qui est américaine. Et puis elle s'est trouvée, mon père remarié, avec une belle-mère. Les frictions peut y avoir entre une belle-mère et dans ces cas-là, c'est quand même assez classique, ça existait déjà, et puis ça a été pour elle l'occasion de
partir.
Et donc là maintenant elle est revenue avec.
Non, elle a fait sa vie aux États-Unis, là-bas elle a ses enfants, ses petits-enfants.
Elle a divorcé aussi, enfin.
Elle a divorcé, quoi, mais enfin ça. C'est comme ça, donc elle a une famille avec ses enfants là-bas, dans le Colorado. Quoi,
elle a 3 enfants, ils habitent Denver, et elle a des petits-enfants.
Elle revient de temps en temps en France.
Elle revenait, mais les conditions de vie en Amérique, j'ai l'impression que c'est détérioré. sur des classes moyennes, hein, parce qu'avant elle pouvait, maintenant elle pouvait plus. Aussi, à 71 ans, elle cherchait encore du boulot, quoi.
Mais aussi, elle venait tant que ta mère vivait.
Quand ma mère vivait, quoi.
Il faut qu'elle vienne chez l'un de nous, quoi. Bon, on l'accueillait volontiers.
Oui, mais, et puis aussi, elle avait profitait des occasions de vol pas cher.
Il y avait un fils qui travaillait dans une.
Dans le transport aérien, quoi, tout ça. Donc, bon, mais ça fait longtemps qu'elle pourrait plus se payer de voyage.
Notre fils est allé la voir.
En retraite, hein, un peu plus, quoi. Bon.
Notre fils il a fait un voyage aux États-Unis. Il est allé la voir il y a 2 ou 3 ans. Mm-hmm. Et ils ont.
Oui, il y a 2 ans.
Bon, il aimait bien. Il avait 5 ans quand elle est partie. Mm-hmm. Et il était très attaché. Et alors, il est retourné la voir, là. Enfin, il l'avait revu depuis, quand même. Il était revenu. Et il a beaucoup sympathisé aussi avec ses enfants. Et cette année, il y a une des demi-sœurs qui va aux États-Unis. Elle va aller la voir.
D'accord. Voilà.
Bien. Alors, nous allons aborder maintenant une autre thématique qu'on a un petit peu abordée tout à l'heure. C'est les loisirs. Vous êtes tous les deux à la retraite. Et donc, vous passez votre temps, quelles sont les activités les plus...
Les activités...
Moi, je passe beaucoup de temps dans le jardin.
Oui, on a quand même 10, près de 1700 mètres, 1680 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il y a de quoi s'occuper si on veut. Mm-hmm. On a une base aussi sur l'île de Léron. On est propriétaire d'un mobile home qui est sur un terrain de camping. Donc, ça nous fait aussi...
De temps en temps.
Et on fait partie d'une association de camping qui était issue de copains de Tourisme et Travail. Quand Tourisme et Travail s'est fermé ses portes, on peut dire qu'on s'est retrouvé, on a fait une petite association de camping, mais qui n'est pas locale. On a des attaches, des copains qui sont à Pau, d'autres qui sont à Lille, d'autres qui sont à Angers ou Paris ou dans le Jura, quoi, tout ça, c'est-à-dire
donc
on a des liens, on fait des sorties en caravane deux, trois fois par an.
Ça, on fait systématiquement deux semaines au printemps et deux
semaines au printemps, deux semaines en hiver. Ça, c'est loisir en dehors de la baraque. Hein. Bon, on caravane, alors chacun organise. Et puis, bon, l'autre fois, on est. Une année, on avait été du côté d'Albi, les copains qui nous avaient mitonné la visite de la région, quoi, c'est comme ça.
Chacun essaie de faire visiter sa région aux autres.
Voilà. Alors, l'autre fois, ils étaient venus à la chapelle déjà, quoi, quand il y avait le camping.
Quand tu étais adjoint, oui, on avait fait.
Après, on a été à Angers, on a fait le Val-de-Loire, il y a quand même pas mal de choses à voir, et on avait fait un rassemblement, une semaine à Amboise et une semaine à Loche, avec la visite des secteurs châteaux ou pas, quoi, parce que les châteaux, on peut pas en faire de trop non plus, parce que c'est quand même relatif. Toutes les visites guidées sont guidées ou pas sont quand même chères et financièrement.
L'inconvénient de ce groupe, c'est que c'est des copains de notre âge. Voilà. Alors maintenant, on est de moins en moins nombreux.
Il y a des voyages longs courriers quand même.
On en a fait. Oui, on en a fait.
Oui, oui. On a, par exemple, des vacances d'hiver. On pourrait dire qu'on. On a été bon.
Depuis longtemps, on partait en hiver, mais maintenant.
En hiver, par exemple, Kenya ou truc comme ça, quoi, pour chercher le soleil, nous.
L'avion.
Bien sûr.
Et ça.
C'est vrai. On a quand même beaucoup voyagé.
On a quand même beaucoup voyagé.
Depuis qu'on est en retraite, puisque Bernard s'est trouvé en retraite pratiquement en même temps que moi, alors qu'il aurait dû travailler jusqu'à 60 ans, il s'est trouvé licencié à 55 pratiquement.
Voilà.
Donc, on a été en retraite pratiquement en même temps.
J'ai eu la retraite à 60 ans, mais de 55 à 60, j'étais sur un plan de licenciement payé pas par les caisses de retraite, par les ACEDIC, là.
D'accord.
Mais enfin, c'était pas financièrement le Pérou, hein.
D'accord.
Mais notre fils ne nous a voilà, jamais été pesant au point de vue financier.
On n'a pas de charge.
Il a fait ses études à Orléans, il n'était pas dépensier. Voilà. Très vite, il s'est pris en charge, il s'est marié relativement vite. Bon, oui. On ne s'est jamais senti.
La maison, quand on avait acheté, on avait fait un emprunt. Oui, minimum, mais qui est fini, et qu'on a fini de payer depuis un bout de temps.
Quoi, voyages, il y a plus rien. Vous avez fait beaucoup de voyages.
C'est vrai. Entre 80 et 2009, 2008, disons, on en a fait beaucoup. Mais, j'ai des albums de photos, il y a des années, j'ai dit, bah, dis donc, cette année-là, on est bien parti, 3-4.
On avait une amie qui organisait aussi des voyages, oui, on avait fait des voyages intéressants par...
On s'est trouvé dans un voyage organisé où on a sympathisé et...
avec un accompagnateur qui était intéressant. Par exemple, on avait été en Jordanie et ce coin-là avec lui. Et puis on avait dit, faudrait tu peux nous préparer quelque chose. On avait très sympathisé. On était une dizaine, 10 ou 12 quoi. Alors il nous avait mitonné un petit truc fait au Mali, quoi, faire le Mali, les pays de Gond et tous ces trucs-là, quoi. C'était très intéressant.
Un super voyage.
Après, avec tout le temps ce groupe-là, on avait loué une maison, on avait trouvé nous à Orléans sur les annonces une maison à louer sur la côte, sur la petite côte au sud de Dakar, quoi. On avait été louer une maison là-bas, on s'était retrouvé là-bas, quoi. C'était sympa. Et puis bon ben le groupe on a été quand même au Vietnam, on a été quand même la Chine et la Mongolie, quoi, et tout ça aussi avec le même groupe organisé comme ça, une fille de Paris qui sans passer par les tours opérateurs au départ les choix d'après les tours opérateurs sur place qu'elle a discuté avec eux. Donc, c'était des trucs voyages, intéressants, quoi.
D'accord. Et là, ça continue un petit peu, les voyages, ou un petit peu moins
les voyages, c'est-à-dire qu'avec le temps, il y a le côté physique qui freine la chose, quoi.
C'est surtout moi, quoi. Bernard, ça va encore, mais moi, j'ai quand même... j'ai des problèmes pour marcher.
Faire des voyages où il y a des visites... comme on a fait, qu'on pourrait plus faire maintenant, quoi. Ça, c'est sûr que...
Bon, ben, oui, j'ai
4 alors, 4 on ans, se contente hein, de...
La caravane, exemple... ça va bien, le voyage en caravane.
Ouais, l'autre dernier, c'était en Grèce. Il y a 3 ans, quand vous avez crevé le pneu, là, votre pneu. Là.
C'était l'année dernière en Croatie.
L'année dernière,
en caravane, oui. Il y avait un rassemblement en Croatie organisé par les Croates, par la Fédération croate de camping. Alors on y avait été là-bas, bon, ça fait une balade, oui, mais enfin c'est pas loin, quoi, ça.
Tout est relatif.
Oui.
Donc vous aimez bien le camping.
Ah oui,
alors,
oui.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus, en fait, dans cette ambiance camping?
Il y a quand même la liberté, hein. Le camping, on choisit son itinéraire soi-même, on y arrive, on n'y arrive pas, c'est pas toujours facile. Et on fait sa popote, on mange ce que l'on veut. C'est vrai que c'est agréable d'aller dans un grand bazar touristique à République Dominicaine ou au Kenya. L'hiver, quand il fait un temps dégueulasse ici. Le restaurant, c'était 15 jours quelque part. En général, on prend un truc de 8 jours et on prend 8 jours de rallonge parce que...
Mais c'est vrai, en camping avec notre groupe, on s'est trouvé à vraiment faire un groupe d'amis, ce qui a été très agréable. Et on a fait vraiment des belles balades. Par exemple, une année, on a organisé un voyage en Italie du Sud. C'était 8 équipages, peut-être. On a fait un voyage super, vraiment.
Oui,
on était peut-être parti 3 semaines. J'étais...
Oui, 3-4 semaines. On a organisé aussi Nous, c'est nous qui l'avions organisé, oui, l'Europe de l'Est, en partant par la Bulgarie, Roumanie, tout ça, jusqu'en Tchécoslovaquie, en revenant par l'Allemagne, tout ça, quoi.
Ça valait pas l'Italie, mais enfin.
Ça valait pas l'Italie, ben non, c'est pas l'Italie, hein, ça pas.
Ah oui, puis on a été jumelé avec une ville de Toscane, ici. Alors, on s'est un petit peu occupé du jumelage.
On a, en Toscane, on a des gens avec qui on correspond un peu de temps en temps.
D'accord. Bernard joue au ping-pong parmi ses loisirs.
C'est un sport, c'est une activité sportive et ça fait un régulateur dans ses emplois du temps aussi. Quand on sait que bon bah tel jour je fais ceci, je fais cela, quoi, ça balise, hein. Ça fait des activités qui balisent un peu, quoi.
Donc quand vous n'êtes pas en voyage, alors un peu de jardinage, un peu donc de.
Et du bricolage,
hein. Bricolage.
De la lecture, oui.
De la lecture, oui. Oui, bah deux après-midi par semaine, je vais au ping-pong. Là,
un club ou avec quelqu'un?
Bah, c'est un club loisir, on ne fait pas de compétition. Quoi.
C'est vieux, ça.
Je ne sais pas.
Hein.
Il y a longtemps que tu as fait du ping-pong. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as commencé à l'usine.
L'usine, ça commence par dans les centres de Pétain, puisque les centres d'apprentissage étaient obligatoirement embrigadé par des miliciens et compagnie, quoi, à l'époque.
Mais tu faisais du ping-pong à l'époque?
Hein?
Tu faisais pas de ping-pong?
J'ai commencé en centre d'apprentissage à avoir du ping-pong, mais on avait des balles en liège parce qu'il y avait pas assez. C'était la pénurie. C'était commencé les premières raquettes de ping-pong, on se les faisait nous-mêmes parce que ça n'existait pas dans le commerce, hein. Encore, c'était la guerre. Hein. Alors bon, mais enfin, j'étais pas un fan de ping-pong. Là. Après, j'ai refait du ping-pong. À l'usine au boulot, oui. Si. Entre midi et 2 heures, il y avait les heures d'arrêt de repas où on pouvait aller manger au restaurant. Puis, au bout d'un moment, le restaurant d'usine.
Ça avait grossi.
Oui, ça faisait grossir parce que comme j'aime pas beaucoup les crudités, alors je mange que des charcuteries ou des cochonneries comme ça. Des cochonneries, enfin, au sens général. Bon, c'était bon. On avait décidé avec des copains de faire du sport le midi au lieu d'aller bouffer. Alors quand il faisait du soleil, on sautait dans la voiture, on allait... quand la piscine de Fleury était ouverte, on avait le temps d'aller faire un peu de piscine. Sinon, tous les matins, dans un sous-sol, il y avait 2 tables de ping-pong et on faisait le ping-pong.
D'accord.
On s'amusait comme ça. Et puis après, quand j'ai eu 55 ans, j'étais en pré-retraite, là. Il y avait l'université.
C'est ça, au début de l'UTN,
l'université du temps libre, qui avait des activités sportives. On a fait je m'y suis inscrit, puis on a été à l'UTL. J'ai été à l'UTL faire du ping-pong, c'était pas mal. J'étais le soir au Palais des Sports Orléans. Et puis jusqu'au jour où ils ont décidé, je sais pas, les gérants, que les loisirs, ça serait entre midi et 2 heures. Alors, j'ai dit merde, mais ça va pas. Au boulot, faire des erreurs à la con, hein. Pendant le boulot, hein, ça, on peut comprendre des fois qu'il faut le faire, mais en loisir, faut pas exagérer. En loisir, on leur a dit, ça serait plus au loisir entre midi et 2 heures, quoi. C'est pour faire pour faire du ping-pong théoriquement, quoi. Alors, on s'est retrouvé une bande de copains comme ça qui ces changements d'horaire avaient assez déplu, et puis avec un club d'Orléans, du sud d'Orléans, du côté de Saint-Marceau, ils ont ouvert une section de loisirs à un club sportif d'Orléans-Saint-Marceau, quoi. Donc on va toujours, et on a bénéficié d'une salle municipale le mardi après-midi, le vendredi après-midi, là, pour... dans l'après-midi, dans des heures potables, quoi.
Oui, dans les premières années de notre retraite, on s'est beaucoup servi de ces... Ça s'appelait l'université du temps libre. Mm-hmm. Je pense que ça existe encore.
Ça existe.
Oui. On a fait beaucoup de choses.
Les conférences.
Oui, pour, moi j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'italien, j'ai fait mille choses. Ça ne m'a pas servi à grand chose, mais
du enfin. Non, c'était pas. D'accord. Un petit peu la télé ou pas du tout?
Oh, si.
Dans quel type d'émission plutôt?
Ah ben, on aime bien les reportages, ça, c'est sûr.
D'accord.
Les reportages, on peut. On a un exemple là. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on a regardé hier?
Thalassa.
Bon, Thalassa. Bon, alors, dans nos activités de loisirs, on a été très axés sur la mer, parce qu'on a été très influencés par l'Odyssée de Cousteau. C'est-à-dire le développement de la mer par le dessous, hein, pas uniquement sur le dessus. Hein, et pour moi, c'est pas pensable d'aller nager en mer sans hublot.
Oui, on a eu la chance,
dans
les années 50, quoi, avant la naissance de notre fils, de se trouver en Corse avec des gens qui faisaient de la plongée et qui nous ont initiés. Et on a trouvé ça super.
Donc,
j'ai jamais fait vraiment de plongée.
J'ai fait de la plongée à un club de plongée d'Orléans avec bouteille, hein, en scaphandre autonome.
Tu n'as jamais plongé beaucoup.
Après, en individuel, j'avais le matériel que je l'ai donné au club parce que.
Une année, on a voulu en faire, c'était trop compliqué.
Trimballer dans la bagnole les bouteilles et tout ça, et puis après, quand elle est vide, trouver un club pour les remplir tous en individuel, pour moi, c'est trop contraignant. Faut suivre les activités d'un club, là. Et comme on n'est pas au bord de mer, pour nous, c'est difficile ici. Si on était sur la Côte d'Azur ou même en Bretagne où il y a des clubs partout locaux qui sont équipés, quoi. À Orléans, l'activité c'était bon l'entraînement piscine, hein. Bon et quelques descentes de rivière l'hiver parce que si on veut faire de la plongée dans la Manche ou dans ces coins-là, si on fait que de la piscine, quand on arrive là-bas, on est frigorifié, il faut s'habituer à l'eau froide. Donc il y a un entraînement qui se fait quoi, en eau froide aussi, si on veut faire des bonnes plongées en Bretagne.
Il y avait une sortie traditionnelle en Bretagne, au printemps,
oui,
vers Pâques.
Aux environs de Pâques, oui. Avec le club de plongée, donc...
De plonger avec bouteille, on aime beaucoup mettre les nez sous l'eau.
On a fait des vacances, on pourrait dire à thème, par exemple, sur la Grèce, en cherchant les sites anciens sous l'eau et tout ça.
D'accord. Et Internet, tout ça, vous...
Ah non.
Non. C'est pas quelque chose.
Ça me tente. J'ai un ordinateur.
Un ordinateur, mais.
Vous n'avez pas de connexion Internet.
Pour l'instant, pas encore. Mais ça va peut-être. Je voudrais bien quand même. C'est vrai que maintenant, ça devient presque.
Oui,
c'est un handicap de part.
C'est vrai.
Ah oui, vous sentez ça comme un.
Oui, ça c'est sûr.
Il y a tellement de choses qu'on lui dit, mais même pour organiser quelque chose, on peut avoir des renseignements sur Internet ou...
Ça, c'est sûr. Là, il s'est trouvé que c'était pas très loin, on a fait Amboise.
Bon.
Mais et si on fait un peu plus loin, on peut s'enseigner sur Internet sans aller sur place.
Sans aucun doute.
Voilà. Et puis pour les livres aussi, on peut commander des livres en librairie, enfin bref. Ah, si, ça me tenterait assez. Parce que mon dépanneur, il habite la région de Montpellier. Alors,
oui. On a un copain qui est très branché, qu'on pourrait dire. Quoi.
C'est lui qui nous a installé l'ordinateur.
Fils.
De toute façon, après, il faudrait passer par un fournisseur de services.
Bien sûr.
Oui, bien sûr.
Mais ça me tenterait assez. Je ne sais pas si je vais sauter le pas.
C'est quoi? C'est une crainte?
Un peu quand même ne pas savoir m'en servir.
Oui.
En plus, Denis me fait remarquer, il me dit pour le téléphone, notre ordinateur n'est pas dans cette pièce-ci. Alors, C'est possible que...
Oh, ça peut se faire, là, d'avoir une prise en haut, là,
pour oui,
avoir
une... Oui, oui, enfin, bref...
Oui, enfin...
Techniquement, là, en principe, ils peuvent répondre à la plupart des
situations,
D'accord. Donc, plus... c'est encore un peu sport, vous...
Mais non, ça fait... Sport,
sport, sport. Plus ouais, lecture.
J'ai quelques problèmes physiques, vraiment. Je marche difficilement. C'est ce qui nous freine.
D'accord. Alors, nous allons revenir un tout petit peu sur Orion pour parler là de... des manifestations, des célébrations, des choses de ce type-là. Donc je vais vous poser quelques questions d'abord à propos des fêtes de Jeanne d'Arc.
Les fêtes de Jeanne d'Arc.
Comment vous trouvez ces fêtes? Est-ce que vous y allez
les fêtes de Jeanne d'Arc, j'ai connu très tôt, parce que j'ai défilé quand Jean Zay était ministre...
En 36.
Bon, d'accord. En scolaire, hein. Bon, et on avait pris une saucée, il avait plu. Bon, c'était mes premiers contacts de la fête de Jeanne d'Arc. Bon, quand notre fils était jeune,
on l'a emmené une fois.
On l'a emmené quelques fois, mais surtout au défilé des provinces la veille.
Ah oui, ça existe toujours, ça, c'est.
Je sais pas. On suit pas tellement les activités des fêtes de Jeanne d'Arc. Ça nous branche pas tellement.
À part les feux d'artifice.
Les feux d'artifice, on apprécie.
Enfin, on y va pas souvent maintenant. C'est...
Mais non, c'est le 14 juillet. C'est autre chose. Les fêtes de Jeanne d'Arc.
Non, on peut pas dire qu'on participe. Ça, vraiment, non.
Et pourquoi c'est pas quelque chose que vous trouvez. Enfin,
bon,
pour quelle raison ?
C'est, à mon avis, c'est un peu trop le sabre et le goupillon. Hein. Les fêtes de Jeanne d'Arc avaient de la gueule quand avant, on avait une armée française qui était colorée. Il y avait des spahis qui débitent. À cheval, tagadat, tagadat, avec des beaux costumes. Maintenant, vous savez, les chars, hein, c'est pas terrible. Hein.
D'accord.
Non. Et puis, bon, bah. Bon, c'est un peu pompeux, hein, actuellement. Hein. Je sais pas, ça fait déjà longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et puis, aller faire le pied de grue dans Orléans pendant des heures pour voir défiler les corps constitués, le clergé, et puis après, les paras, hein, bon, ça... Bon, on n'a pas le côté... On serait même carrément antimilitariste sur le bord.
Plus anticlérical, alors.
Un peu anticlérical, un peu anticléricalisme. Alors tout ça fait que, bon, on peut rigoler un petit peu. Les provinces, quoi, ça va être...
Tu as payé, toi, ton anti-militarisme.
Oui, bien sûr, mais c'était une période, c'était la guerre d'Indochine, et puis, bon, ben, étant Troufion appelé antimilitariste et contre une guerre coloniale comme il y a eu en Indochine, quoi, c'est sûr que...
Quelques déboires.
Ça laisse des traces, quoi. On n'est pas tout le temps bien compris, quoi.
Ses supérieurs, surtout.
De ses supérieurs et toute une... Bon, enfin, ça, c'est...
D'accord.
C'est des problèmes, hein.
D'accord. Alors, il y a eu d'autres manifestations. Je ne sais pas si c'est assez ancien ou pas. Par exemple, le festival de jazz. Est-ce que vous...
Non, on n'est pas branché là.
On n'est pas fait musique. Hein. Moi, je
n'est pas médicament.
Moi, je suis complètement handicapé de ce côté-là. Donc,
oui. Il y a des manifestations à Orléans que sur la Loire, branchées sur la Loire, ça c'est sûr. Bah oui, mais on y va comment ?
Attendez, à la fête de la Loire.
Il faudrait un hélicoptère pour y aller. On peut plus approcher d'Orléans. Ici, on peut y aller qu'en voiture, hein. Le car, je sais pas. Bon, s'il y a une question physique, quoi. Si on pouvait y aller en vélo et tout ça, et c'est sûr. Mais enfin, bon, ben. S'il y a de la marche un petit peu, nous, on est quand même dans une catégorie un petit peu...
D'accord.
Limité par les moyens.
Limité par nos moyens. Il n'y a pas que les leurs, c'est sans doute bien, quoi. Ça nous est arrivé il y a 2 ans de voir, mais on avait été à Saint-Charles de l'autre côté de la Loire pour voir de loin. Mais enfin, c'est physiquement pas toujours facile.
D'accord. Est-ce que vous vous intéressez, enfin, à mon avis, en tout cas pour vous, monsieur, ça, la réponse va être oui, à la politique locale. Est-ce que vous continuez toujours à vous intéresser à la politique locale?
Ah oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah, il y a des trucs politiques ou gestion qui me gêne, hein.
On s'y intéresse, mais on ne participe plus.
On ne participe plus.
On a milité.
On a participé, mais dans ce qui se fait actuellement, il y a des trucs qui me coincent. Là, par exemple, on est toute une zone. La chapelle a une zone qui est au nord entre l'autoroute et la voie ferrée, une zone qui est pas tellement urbanisé, il y avait toute une zone, et où il n'y a aucun équipement public, ou commercial pour les gens. C'est-à-dire, il faut passer la voie ferrée. Et on est, il y a sur un plan local une association qui s'appelle le Comité Nord, qu'on essaye de défendre le bout de gras à travers ce comité, pour essayer de ne pas être coupé. Alors là, actuellement, il y a eu une période à l'époque de développement par le chemin de fer, qui a développé le chemin de fer, et puis après, bon, ils ont fermé, il y a eu une période où ils ont fermé les passages à niveau, pour la sécurité. Il y avait eu des tués, des morts, tout ça.
D'accord.
C'est vrai. Alors, à la page de 5 ou 6 passages à niveau, il reste que 3 passages qui franchissent la voie ferrée. Dont 2 qui sont très mal pratiques au point de vue un petit pont où on n'a pas de visibilité et on n'a pas la place de se croiser. Un autre où on passe sous un petit pont là près de la gare là, qui est, où il faut des feux pour pouvoir passer chacun leur tour. Et il n'y a qu'un endroit possible. Et actuellement...
Le troisième, attends, moi je cherche. Quel est le troisième franchissement de la voie ferrée?
Il y a le pont de Rantais, la gare, et puis le pont de... au bout de chez Michelin, quoi. Oui. Sous le tunnel, quand même.
Oui,
la rue de la Bredouche et compagnie. Bon, et actuellement, on est en train de faire des lotissements dans cette zone-là, quand on ne prévoit rien pour refranchir ces zones-là. Alors, il y a des projets dans des tiroirs qui ne sont pas appliqués, parce que c'est des projets, il n'y a pas de... C'est pas, qui ne sont pas au programme, et on lance des programmes de, pour continuer à bâtir par ici, quand, en parallèle, on ne fait rien, ni au pouvoir public, ni tout ça. Ça, c'est un problème d'urbanisme local.
Bon, on va dire ce qui se passe.
Bon, alors, d'urbanisme local, il y avait un terrain de camping à la chapelle qui était très fréquenté, bon, mais qui était ouvert qu'une partie de l'année parce que c'est en bord de Loire et en zone inondable, donc fatalement, ça peut pas être un camping permanent, il n'était pas grand, qui a été fermé par la municipalité précédente, par ces gens-là, sous des prétextes fallacieux comme quoi il n'était pas rentable. Alors ça, les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut, hein, dans ce domaine-là, quand on veut tuer son chien, on dit que... Bon, alors, ils en ont profité pour le supprimer parce qu'ils n'avaient pas envie de s'en occuper, c'est tout, et qui était complet à partir de 4h de l'après-midi, hein, pendant toute la période estivale, hein, touristique. Et maintenant, il y a...
Et est-ce qu'ils envisagent de remettre en route
Il y a des vagues bruits, comme oui. quoi, mais...
Parce qu'en fait,
c'est que des bruits, hein, oui. pour l'instant.
Mais sinon, il n'a pas été réoccupé par autre chose, quoi. Ils peuvent le mettre
en partie, c'est... Mais si, c'est toujours occupé par quelque chose vite fait, hein. Pas en permanence, oui, mais ça sert.
Ils peuvent en faire un camping.
Alors, c'est en bord de Loire, c'est dommage. C'est dommage, mais parce que on s'aperçoit que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de touristes, le Val de Loire.
Et nous qui campons encore.
Tourisme étranger, alors à 50% des étrangers qui font le Val de Loire, des Hollandais, des Anglais, des Allemands, quoi.
Alors, tout à fait autre chose maintenant, est-ce que la rumeur d'Orléans vous dit quelque chose?
Ah oui, oui, oui. C'est,
vous pouvez dire en deux mots ce que c'est?
Ça, c'est...
Enfin, c'est dans quelle année? Je ne saurais pas trop dire.
C'est quand même assez vieux. Il y avait quand même, sur Orléans, je crois, dans l'habillement, dans le vêtement, quoi, des gens très actifs qui étaient d'origine...
Une famille juive.
Juive, hein. Bon.
Bon. Et la rumeur...
On a été clients chez eux comme chez les autres.
C'était un peu moins cher.
C'était... les jeans, on les a commencé à les trouver chez eux. Oui, non, c'est des concurrents quand même importants pour d'autres groupes de commerçants, j'ai l'impression.
Et la rumeur...
Et moi, je crois que c'était une rumeur qui a été fabriquée.
Ah oui.
Pour saper la clientèle
de
ses clients.
Vous savez ce que c'était la rumeur,
La rumeur d'Orléans, il a été prouvé que c'était une rumeur.
Une jeune fille ou plusieurs.
À l'origine, c'était une. Après, ça a gonflé sans doute, mais à l'origine, c'était une.
Bon.
Et ça a été très important, au point que la directrice du lycée recommandait à ses élèves de ne pas aller dans ce magasin.
D'accord.
Oui. Ah, oui.
Ah, c'était un magasin spécifique. En fait.
Ça a été un magasin qui a été ciblé.
Un magasin où il disait qu'une jeune fille avait été retirée pour essayer un vêtement et qu'elle n'était pas ressortie, qu'elle avait été kidnappée.
Le fait que ce soit trouvé chez des commerçants, disons. Des gens comme ça, peu importe, je ne sais pas si.
Amrofel,
oui, ils étaient très actifs. Et ils avaient plusieurs magasins. Puis il y a la solidarité de ces gens-là qui est importante. Et je pense que ceux qui ont semé l'erreur, c'était même pas par anti-sionisme ou quelque chose comme ça, c'était surtout de la jalousie industrielle, quoi, commerciale.
Des concurrents qui étaient
des concurrents commerciaux qu'il fallait foutre en l'air, c'était pas leurs origines, ils auraient été juifs, arabes ou autre chose, ça aurait été pareil.
Ils auraient été arabes, ça aurait été pareil, mais s'ils avaient été catholiques, ça aurait été
mal. Mais c'est sûr que c'était pas la bonne bourgeoisie orléanaise.
C'est ça.
D'accord. Parce que la jeune fille en question, qui aurait été donc kidnappée, elle partait où après?
Ça alimentait
les réseaux.
Du Proche-Orient ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'était la traite des blanches, là.
C'est ça. Donc, on réglait
oui.
La question.
Voilà, c'était une rumeur insidieuse.
Je ne sais pas quelle année c'était.
La fin des années 60.
Les années 60.
Il y avait un seul magasin tenu par des juifs. Je pensais qu'il y avait quelques.
Il y avait tout un quartier, par exemple, de la rue de Bourgogne et tous ces coups-là, où il y avait quand même beaucoup de magasins.
Enfin, c'est quand même parti de ce magasin à Amrofel. Moi je sais, parce que c'était la directrice du lycée recommandait. Je l'ai plus au lycée, mais je l'ai su.
Je ne sais pas pourquoi, parce que. C'est complètement... Enfin...
Ça s'est avéré.
C'était farfelu.
Rien du tout.
Mais cette rumeur, c'est une rumeur et c'est repris chez, je ne sais pas, les médias, comment qu'ils ont...
Après, je ne sais pas si...
Comment ça a été médiatisé, on peut dire, mais...
D'accord. Il y avait d'autres histoires de ce type-là, d'autres rumeurs.
Non, je n'ai pas entendu.
Cette histoire de rumeur d'Orléans, oui, elle a été importante, quoi, oui.
D'accord. Alors, j'ai une question aussi sur les Orléanais, sur la réputation des Orléanais. Vous vous sentez orléanaise, madame?
En moitié. Pendant longtemps, j'ai quand même fait mes cours sur Orléans, oui.
Orléanais, mais mes parents habitaient dans le centre d'Orléans, locataires, et mon père a fait construire dans les années 30 et quelques, j'avais 2-3 ans quand je suis parti d'Orléans, quelque chose comme ça, 3 ans, peut-être. Oui. Donc, et toute ma jeunesse, je l'ai passée sur Fleury. Mm-hmm. Ma ville, moi, c'est Fleury-les-Aubrais, oui. Plus qu'Orléans. Mm-hmm. Par contre, Orléans, je les connais, pour l'avoir traversé, étant jeune, de Fleury, pour aller jusque sur les quais, quoi, c'était rue des Turcis, quoi.
La rue des Turcis.
Rue des Turcis, pour aller à l'école sup, qu'on appelait. Oui, oui, j'ai été en cinquième industriel, avant de rentrer en école d'apprentissage sur Saint-Jean-de-Bray. Et puis après de Saint-Jean-de-Bray, j'étais en école d'apprentissage, on a été sinistrés à Fleury, mes parents ont été sinistrés en 44, et on habitait chez une tante à Saint-Jean-de-Norvel, près du pont de Tours, là, tu vois. Et je traversais Orléans d'est en ouest. Avant, je l'avais traversé de nord en sud. Alors, je connais pas mal Orléans, mais j'y ai pas résidé beaucoup, quoi.
Ils ont une certaine réputation, les Orléanais.
Oui, on dit qu'ils sont pas gracieux, oui.
Les radins.
Ah oui,
radins. 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 Alors, je crois qu'il y a une réputation de radins qui vient des. On appelait, je crois même, les chiens d'Orléans.
D'accord.
Les chiens d'Orléans, c'est être chien, c'est être radin, oui, quoi. Oui. Les chiens d'Orléans, oui, je crois qu'il y a une vieille histoire d'une statue qui avait été commandée à un sculpteur après la guerre de 14, je ne sais pas quand, quoi. C'est très vieux, hein. Et puis, je ne sais pas quoi, il n'avait pas. La municipalité de l'époque qui lui avait commandé lui avait pas payé ou pas suffisamment, je sais pas quoi. Alors il avait rajouté dans les pieds de la statue, quoi, un chien, quoi. Ça veut dire être chien, quoi. Alors cette statue, je pense qu'elle a été, comme c'était une statue en bronze, je pense qu'elle a été coulée dans les canons de l'armée allemande, hein, parce que tout ce qui était dans ce cas-là.
Et l'expression être chien pour être radin n'existe, n'est plus très employé, quoi.
Je sais pas si.
Moi, j'ai déjà entendu l'expression, oui. Les chiens d'Orléans.
Oui. Les chiens d'Orléans.
Mais
être chien dans
un
rapport.
C'est la version que je connais. Maintenant, je peux pas prouver.
On parle aussi de froid. Ils sont assez froids.
Froid.
Oui,
ça a peut-être été, quoi. C'est-à-dire, c'était quand même une ville assez bourgeoise. Pour entrer dans certains milieux, un patron dont les parents étaient devenus un bourgeois orléanais, mais dont les patrons étaient simplement. Le père était facteur, hein. Ben, ils n'ont pas fait de cadeaux, hein. Ah oui, ils l'ont accepté tant qu'il avait les moyens. Et après, le jour où il était retraité en dehors de ses affaires, quoi.
C'est les commerçants.
C'est les commerçants. C'était un centre commercial, quoi. À part les vinaigriers, les Dessaux.
Ah oui.
Dessaux, la famille Dessaux, qui était une famille vinaigre Dessaux, qui est très connue à Orléans.
Et qui
a été fusillé pendant la guerre. Il a été mort pendant la guerre. C'est pour ça qu'il y a l'avenue Dessaux qui va sur Fleury, là-bas. Tout ça.
Parce que c'était un résistant.
Oui. Il a été fusillé.
Oui.
Il a été déporté, je ne sais pas, il a été fusillé. Il y en a un qui a été fusillé.
Oui. Oui, il y a eu. Bon, oui, Orléans.
Sinon, il y a une solidarité bourgeoise dans les commerces.
Oui, sûrement, quoi.
Par exemple, le commerce des chaussures.
Maintenant, ça a été quand même sans doute beaucoup plus que c'est. Maintenant, c'est devenu quand même une ville tellement. Qui s'est éclatée d'un peu dans tous les sens. Et puis, Orléans, ça fait partie d'une agglomération maintenant. On est orléanais. Si on est dans. Elle était coincée. Dans une ceinture de communes qui sont aussi fortes, Orléans, si on fait le total des communes environnantes Orléans, en prenant comme Fleury, c'était quand même la deuxième ville de Loiret, quand même. C'était plus gros que Montargis, quoi. Hein. C'est quand même très important. Olivet, quand même, d'un autre côté, quoi.
D'accord.
Alors, Olivet, c'était les régions des maraîchages, hein, le coin des maraîchers, quoi, par là. Maintenant, ça pousse autant d'immeubles qu'ailleurs. Hein.
Alors, nous allons aborder le dernier thème, qui est un thème langue. Et la première question, c'est est-ce que vous trouvez que les Orléanais ont une façon propre de s'exprimer ?
Ah bien sûr que non, nous on ne trouve pas. Non. On trouve que c'est la façon normale et absolue de s'exprimer, ça. Tous ceux qui ne parlent pas comme nous parlent mal, forcément.
Ben, oui, oui.
Mais on parle bien à Orléans ?
Ah ben oui.
Je pense que Orléans-Tours, c'est une région où il y a moins de déformation, quoi. Enfin, il est certain que quand on va chez les copains dans le Tarn, hein, le Tarn, vous connaissez la rivière, le Tarn, ben ils connaissent pas, quoi. C'est le Tarn, le N, ils disent pas. Quand ils en rajoutent des fois des paquets.
D'accord. Oui, oui. Donc vous trouvez qu'à Orléans, on parle bien.
Il me semble.
Il me semble. Oui, il me semble. Mmh.
Ouais. Et alors, alors ça veut dire quoi, parler bien, au niveau de la prononciation
il nous semble que la prononciation est la prononciation normale, mais c'est pas vrai, on fait des erreurs comme... par exemple, je n'ai pas enseigné le français, mais par exemple, on va acheter du lait, alors qu'on devrait acheter du lait.
Ça,
on prononce, c'est des faits de prononciation. Oui, oui.
D'accord.
Toi, vous avez remarqué.
Du lait, et ça, j'avais une tante qui me faisait remarquer la tante Suzanne, qu'elle est charmante là-bas. Je voudrais du lait, quoi. Du lait, comme disait. Ben oui, mais ça on ne s'en rend pas bien compte, sur quelques petits trucs comme ça, quoi. Mais...
Ben, ceci dit, dans par exemple La Chapelle, on ne peut pas parler d'un petit vernaculaire, quand même, qui se démarque dans Léon.
Maintenant, je ne crois pas. Tu crois que...
Dans la famille, enfin, par exemple, la famille Besançon.
Oui.
Non. Une petite touche locale.
Je ne sais pas. Moi, qui suis d'origine paysanne, quand même,
oui.
Dans ma famille, mon père, il savait parler français. Ouais. Mais ils avaient encore quelques expressions. Et,
voilà, quelques expressions.
Par exemple, il y a un poète local qui est Gaston Couté.
Gaston Couté, quoi.
Vous connaissez.
Écoutez, Gaston Couté, c'est...
Mon père disait Gaston Couté parfaitement, quoi. C'est avec des prononciations paysannes.
Non, il y a les déformations en campagne.
Quelque chose, ouais.
Mais dans le centre d'Orléans, dans Orléans même, je ne sais pas, je ne vois pas.
Orléans, c'est vrai, oui.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle quelquefois la langue des jeunes ?
On n'est pas très versé sur la question.
Oui,
vous voyez à quoi ça correspond,
mais,
à peu près ?
Un peu, mais par exemple, notre petit-fils a 30 ans, c'est-à-dire qu'il n'est pas vieux. Il habite Ivry, donc il habite la banlieue. Il n'a pas de cette déformation du tout.
Et pourtant, il a des amis.
Beaucoup d'amis arabes. Tunisiens en particulier.
Dans son quartier, là-bas, il n'y a plus de boubou.
C'est vrai qu'en Afrique. Simon, il n'est pas du tout marqué jeune.
Il va normalement. Enfin, il a déjà plus de 30 ans quand même.
Et
pourtant, il est très imprégné du milieu Ivry. Ça. Il se plaît beaucoup à Ivry. Il milite. Aussi bien politiquement qu'il fait du sport avec les jeunes et tout ça. Ça ne se sent pas du tout dans sa façon d'être.
Il a même vu un mariage djerbien. En Tunisie.
Un mariage traditionnel, on n'avait pas vu la mariée, tout ça, c'était drôle. Quand il est parti sans avoir vu la mariée.
Donc
il a beaucoup d'amis tunisiens, oui.
Oui.
Mais.
C'est la banlieue sud-est. Hein.
Oui.
Simon n'a pas du tout la marque de quelqu'un qui...
Il a habité toujours la même...
Il habitait
chez ses parents, qui n'est pas des grands ensembles aussi qu'il y a là-bas.
C'est vrai,
il habitait chez ses parents, qui est le chemin, quoi.
C'est pas un quartier très marqué non plus, c'est pas les grands ensembles, quoi, c'est vrai, non. C'est bien que... à part l'entendre à la radio ou à la télé,
D'accord. Alors, sa fréquentation de, aussi tunisienne, enfin, de, c'était, c'est des commerçants, non? C'est pas des gens qui faisaient
ben,
des
marins, il avait des copains qui travaillaient dans, dans les fringues. Hein.
Voilà, dans les fringues.
Il avait des jeans à un moment, oui, donc...
Et il allait se faire un peu d'argent de poche, on lui donne un coup de main à vendre dans son magasin.
Il
quoi.
A même failli à un moment se reconvertir.
Oui, hésiter quoi. L'autre, il voulait le prendre comme adjoint, comme, comme alors, associé.
Une année, il a même arrêté ses études en pensant qu'il allait se... Mais après, au bout d'un an, de vendre de jeans, il a réalisé qu'il allait peut-être mieux reprendre des études.
Oui.
Mais enfin, donc la langue des jeunes, je la connais pas.
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent ou qui vous amusent dans la façon de parler de certaines personnes, que ce soit de l'entourage ou pas?
Ben, on ne peut pas dire qu'on connaisse.
Bon. Oui, c'est-à-dire que.
On a des neveux et nièces, par exemple, qui habitent la région, mais moi, je ne remarque pas qu'ils ont quelque chose. Même Quentin, que.
Oui.
En quatrième, quoi. Il me semble qu'il parle comme
non, presque. Bon, les jeunes, enfin, ouais, c'est une question de culture personnelle. J'ai jamais fait d'anglais. Et moi, alors, l'électronique, hein, moi, tout me fait chier parce que je ne comprends rien. Bon, alors, on n'est pas capable de te dire. Qu'est-ce que c'est un MP3 sans te faire un truc avec 36 mots d'anglais sans doute derrière ou le truc comme ça? Alors, bon, bah, alors ça, c'est une époque où il n'était pas question d'apprendre l'anglais quand j'étais à l'école, moi, pendant la guerre. Hein. Bah, tu parles, hein, les cours d'allemand, c'est impossible. Mais les cours d'anglais, ça ne l'était pas.
Moi, j'ai fait l'allemand pendant 2 ans.
Hein?
Mais
bah, oui.
On est quand même un peu déphasé avec.
On est déphasé, quoi.
Il faut bien reconnaître. Hein.
Non, l'anglicisme me gêne beaucoup, moi, dans le parler actuel, qu'il soit orléanais ou autre, hein, sans doute c'est pareil, et ça c'est... Et partout, dans les médias, alors, ils en mettent une couche. Ça fait très branché, je crois.
Et à part l'anglais, quels sont les... Enfin, l'anglais, plutôt l'anglicisme, quelles sont les autres langues que l'on entend dans la région, à part le français, évidemment?
Bon.
On entend dans les commerces, dans la rue, dans l'entourage ou pas?
Ah, dans les commerces, c'est assez différent.
Dans les commerces,
c'est assez différencié maintenant. Hein, mais, par exemple, il y a des personnes qui parlent russe, c'est certain.
Oui.
Dans les grandes surfaces.
Oui, il y a quand même.
C'est assez récent.
Ah oui, c'est très récent.
Des pays de l'Est, russes ou roumains, ou tout ça, il y a beaucoup quand même d'émigrés des pays de l'Est. Bon, évidemment, il y a l'Afrique. Le portugais, quoi, c'est...
Ah, il y a des familles portugaises, oui, quand elles se rencontrent au champ, elles parlent portugais, ça c'est sûr.
Il y a eu les vagues successives d'émigrés en France, ça a commencé par les Italiens dans les années 32, hein. Bon, qui se sont bien francisés depuis un nombre de générations. Et il y en a eu après la guerre, des Italiens qui sont revenus en France, et puis il y a eu les Portugais, en paquet. Hein.
Ah oui. J'ai une belle sœur qui est portugaise, mon frère qui est cultivateur, a épousé une portugaise. Bon. Et quand je l'ai emmenée, et ils habitent donc Beaule, c'est à côté de Main-sur-Loire, je l'ai emmenée au marché de Main-sur-Loire, elle connaissait beaucoup plus de gens que moi.
Ah voilà.
Parce qu'ils émigrent par région.
Ben oui.
D'accord.
Non, alors, ce qu'il y a dans les grands magasins, il est certain, quand on va au champ, quoi, je ne vais pas dire qu'il y a un sur deux dont la langue d'origine, c'est pas le français, mais il y en a beaucoup.
Tu as une longue fréquentation de camarades ouvriers, enfin, arabes, non?
Arabes, oui. Mais qu'est-ce que, à l'époque, c'était la France, hein. C'était avant la guerre d'Algérie, hein.
Non, ce camarade qui est parti en retraite.
Oui, on a un copain qu'on retrouve de temps en temps.
Ce gars avec qui
Amar, bah oui. Oui, il était marocain. Il était dans mon équipe. Hein. Bon, on se voit au champ de temps en temps parce que lui, bon, il était payer un petit professionnel, quoi, parce que c'était un OS, il a commencé à travailler dans le bâtiment quand il est arrivé en France, il connaissait pas un mot de français, il connaissait de l'arabe ou de l'espagnol, parce qu'il est...
Et du RIF.
Du RIF, du Nord, qui était sous influence espagnole, donc, c'est sûr que... Et moi, on a bossé tout ensemble longtemps, c'était le manœuvre de mon équipe, qui était très, très douée pour les manutentions de grosses pièces avec les ponts roulants et tout ça. C'était... Mais et il habite, il n'est jamais retourné chez lui, quoi. Il n'est jamais retourné chez lui parce que...
Il est complètement coupé de sa famille.
Il est coupé de sa famille parce qu'il est anticlérical, il n'est pas d'accord avec... Alors, quand on se pointe et qu'on ne fait pas sa prière là-bas, c'est pas toujours facile. Hein.
Même en France, en foyer,
ben, il y avait quand même une pression islamique dans les foyers qui fait qu'il est parti, il a pris un petit logement parce que...
Parce qu'il n'a pas sa famille.
Il ne s'est pas marié,
quoi. Donc, je le vois de temps en temps, quoi. On se rencontre dans Auchan ou dans des coins comme ça, quoi, puisqu'il habite sur ce genre de Darvel,
en fait,
pas loin.
Il a une vie triste quand même, ce garçon.
Eh oui.
Ah, c'est sûr que. D'accord. Eh bien, j'ai quasiment fini. Il me reste juste une toute dernière question, mais peut-être que je puisse la poser à madame, et qui est un petit peu bizarre comme question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous faites une omelette?
Ah oui, comment je fais une omelette? Très simplement, je prends des œufs, je les bats, mais j'aime bien mettre quelque chose dedans, soit du lard. Si c'est une omelette au lard, je fais revenir mes lardons un peu avant. Mm-hmm. Sinon, je peux mettre de la ciboulette, mm-hmm. je peux mettre du fromage. J'aime bien mettre un peu de lait.
Fromage râpé, quoi.
J'aime bien mettre un peu de lait pour que ce soit pas trop épais. Mm-hmm. J'essaie que ma poêle soit assez chaude quand je mets les œufs. Mm-hmm. Des fois, mon mari me dit que je mets mes œufs trop tôt, ça c'est vrai. Mm-hmm. Moi, j'aime bien faire les choses assez vite. Voilà comment je fais une omelette. Mais monsieur sait aussi faire une omelette.
Ah oui? Est-ce que vous validez cette recette ou est-ce que
vous Oui. Moi, je ne mettrais pas de ciboulette, c'est tout, quoi, parce que je ne suis pas très branché sur les...
La verdure.
On pourrait même dire que j'aime rien. Bon, c'est vrai que j'aime pas les oignons, j'aime pas beaucoup l'ail, j'aime pas... Bon, alors, évidemment, c'est... Bon, moi, c'est...
Ça limite un peu.
Quand je la fais, moi, il y a des choses que je mettrais pas. Mais enfin, mais avec un peu de ciboulette, ça ne fait pas de mal. Non, je reconnais, quoi.
D'accord. Voilà, voilà. On a fini. Bien, merci beaucoup.
Eh bien, c'est bien, on va peut-être prendre l'apéritif maintenant. Hein. Juste là. Allez, on va se débrancher.
On se débranche?
Oui, je vais.
Ça y est. Ça.